absurde, mais on a beaucoup parlé d'unité, mais pourquoi il faudrait s'unir ? En tant que chrétien, j'entends, pourquoi on devrait s'unir ?
On a une première question de Badreddine, est-ce qu'il y en a une autre ?
Merci. D'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, parle des catholiques, sont un peu conscients de ce travail et de ce changement de mentalité.
Je vais les prendre dans l'ordre parce que c'est aussi simple. Pourquoi s'unir ? Je pense que tout chrétien engagé dans l'écuménisme pourrait faire au moins une double réponse. La première, c'est que la dernière prière que les évangiles de Jésus, que les évangiles nous rapportent avant son arrestation, c'était après son repas, dans l'évangile de Jean, c'est « Père qu'il soit un, comme nous sommes un ». Ce qui montre bien sans doute que Jésus avait conscience que l'unité n'était pas si évidente. D'ailleurs, on voit dans les évangiles, par exemple, Jésus qui surprend ses disciples en train de se bagarrer pour savoir qui était le plus grand. Et alors Jésus appelle un enfant et leur dit « Celui qui veut être mon disciple, il faut qu'il soit comme ce petit enfant ». Il y avait évidemment, comme dans tout groupe humain, avec la pesanteur humaine. Donc il y a la première réponse, c'est que Jésus a prié pour cela, c'est évident. Alors la deuxième réponse que l'on fera, qui sera parfois plus nuancée, c'est que nous confessons que Jésus, c'est encore dans le même évangile de Jean, est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés, et qu'on est dans un monde qui est divisé par des tas de guerres, et que les chrétiens eux-mêmes se sont fait la guerre, et que finalement, ils donnent un contre-témoignage de ce qu'ils devraient être, et en plus, du fait qu'ils sont divisés, non seulement ils empêchent, je dirais, au message chrétien d'avoir une certaine pertinence, mais en plus, on pourrait dire qu'ils n'apportent pas dans le monde et dans la société la manifestation que la paix est possible et que la différence qu'il y a entre les hommes peut être surmonté par un message d'amour et donc par leur propre exemple d'ouvrir un chemin pour ceux qui ne croient pas et qui seraient divisés. Je résume un peu ce qui est au cœur un peu de la foi chrétienne et de ce mouvement écuménique. Ce qui paraît très étonnant, c'est qu'il ait fallu attendre 1900 ans, on dirait d'une certaine façon, pour que se mette en place un tel mouvement. Mais l'une des raisons à cela, c'est qu'évidemment, il y a eu une imbrication entre entre la foi chrétienne et des régimes politiques, et évidemment, qui a perturbé pas mal les choses à ce niveau-là. Je réponds un peu rapidement. Alors, la deuxième question, c'était dans quelle mesure les églises des pays du Sud sont conscientes des transformations, des changements et des enjeux écuméniques. Si on regarde... Je vais vous répondre par une expérience et puis après je vais nuancer. J'ai été appelé par le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens à faire une session de formation pour des évêques sur l'écuménisme en Afrique, c'était en 2005, et j'ai été appelé par la conférence des évêques du Congo au Brazzaville pour... participé à la réflexion de la conférence épiscopale des évêques là-dessus. S'il y a ça, ça veut autre, bien dire que l'impératif écuménique, l'urgence de l'unité des chrétiens n'apparaît pas de façon si évidente. Alors, ce que je voudrais maintenant ajouter, c'est ceci. Toujours mon expérience. Il y a des pays où les chrétiens se sont unis à cause de la conjoncture. Quand je suis arrivé au Congo-Brazzaville, le gouvernement communiste, entre guillemets, avait obligé les églises protestantes à s'unir dans l'église protestante du Congo, les chrétiens célébraient vraiment sérieusement la semaine de l'unité et avaient même mis en place un conseil écuménique des églises du Congo face à ce régime marxiste. Il y avait une certaine dynamique qui s'était créée. Dans un pays voisin comme la Centrafrique, où il n'y avait pas les mêmes menaces contre l'Église, la dynamique écuménique était moins forte. Alors, une fois que j'ai dit ça, on pourrait dire que je suis dans la première partie de mon exposé. Actuellement, dans les pays du Sud, partout, l'essor des églises protestantes évangéliques pentecôtistes, mais surtout de type pentecôtiste et surtout de type néo-charismatique, est tel que c'est une très grosse érosion et une concurrence extrêmement difficile. Et là, je dois constater que, par exemple, dans un pays comme le Congo-Brazzaville, les évêques rappellent leur engagement écuménique mais ne veulent pas vraiment, sont réticentes plus exactement à chercher à développer des relations avec les nouvelles églises africaines qui sont nées, notamment au Nigeria, au Congo-Kinshasa, etc. Parce que elles ont un essor très grand, elles sont très critiques vis-à-vis des églises instituées et elles apparaissent souvent comme un peu démagogiques ou dévoyées avec une théologie de la prospérité importante. Mais le pape François, lors de l'assemblée du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, a rappelé aux évêques, le Concile Vatican II nous dit que quand un baptême est donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous le reconnaissons. La plupart de ces églises, elles ont une foi trinitaire. Il y a peut-être un quart qui ne l'a pas, c'est variable. Et donc, nous reconnaissons ce baptême. Si nous reconnaissons ce baptême, nous devons reconnaître, comme dit le Concile, que l'Esprit ne refuse pas de s'en servir comme des instruments de salut pour ceux qui connaissent un certain cheminement de foi. Et donc, il nous faut aussi dialoguer avec elle. Alors là où c'est évidemment très compliqué, c'est qu'à l'intérieur des églises, je prends les églises africaines parce que je les connais, il y a plusieurs groupes. Vous avez eu des églises qui ont réagi contre des églises d'implantation coloniale, c'est-à-dire envoyées par des missionnaires en faisant scission, et qui ont essayé de revaloriser les cultures africaines en faisant appel à des symboles, etc. Vous avez eu des prophètes dans certaines de ces églises. Simon Kimbangu, par exemple, Harris, sont des des personnes qui ont fait une expérience spirituelle et qui ont donné naissance à des églises. Alors ça, ce sont ce que l'on pourrait appeler, ça fait partie de, mais il y en a aussi en Afrique du Sud, les églises qu'on appelle zionistes, etc., qui sont des églises d'initiatives africaines. C'est un peu ce que l'on dira, donc qui constitue un groupe assez ancien déjà, et qui a une expérience, on pourrait dire, d'inculturation de la foi. Ce qui est nouveau, ce sont des églises qui sont nées sous l'impulsion de pasteurs qui souvent ont été formés aux États-Unis et qui développent des églises sur des modèles de croissance d'églises entrepreneuriales et qui souvent sont très critiques vis-à-vis des cultures locales. Et là, on est devant des églises qui, j'allais dire, ont des aspects à la fois spirituels liés à la modernité et en même temps à la culture capitaliste, enfin, je veux dire, à un certain modèle de développement capitaliste, parce qu'ils promeuvent la prospérité économique. Et alors, là où les choses ne sont pas très simples, c'est que, de fait, dans certaines de ces églises, des gens font une expérience spirituelle, se disciplinent, et en se disciplinant et en reprenant confiance en eux-mêmes, ils abandonnent la boisson, les drogues, etc., et parfois retrouvent une place dans la société en ayant une certaine réussite sociale. Alors, à la fois, il y a des aspects que l'on a trouvé tout à l'heure, que j'ai évoqué de critique par les églises de la culture capitaliste, et en même temps, on a des églises qui s'inscrivent dans cet horizon-là.
Ce que mon ami Augustin du Burkina Faso appelle les Américains.
Oui, mais évidemment, c'est d'autres. Il y a des spécialistes qui diront, bien entendu, il y a une culture américaine, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi des aspects de résurgence d'une culture africaine. Comment dirais-je, de rites, essayant de procurer, d'avoir une emprise sur des forces vitales, etc. Et donc, est-ce que ça n'est pas, en plus, une espèce de néo-paganisme, si vous voulez ? Mais certains spécialistes diront, c'est quand même une certaine manière de revisiter, malgré tout, à travers l'Évangile, certains aspects de cette culture africaine par laquelle, avec des rites, on espérait de capter des forces vitales, etc. Donc, c'est des questions très complexes, parce que ce sont des églises qui connaissent une très grande expansion. Vous avez au Nigeria des églises qui avait avec un peu je dirais la maladie j'allais dire un peu américaine qui ont créé des hangars énormes dans lesquels vous pouvez mettre 10 000 personnes, enfin c'est-à-dire les plus grandes églises, les plus grands bâtiments ecclésiaux du monde se trouvent dans ces églises-là, et vous avez des chefs, des animateurs, prophètes qui ont amassé des considérables fortunes, qui sont un moyen de dire bah voyez, faites comme moi et vous allez réussir. Bon, alors évidemment, où est la théologie de la croix dans tout ça? Elle n'est pas très présente, mais je pense qu'il faut faire très attention c'est facile, j'allais dire, un peu facile pour nous qui sommes sur le continent, l'un des continents les plus riches avec une certaine prospérité, une certaine sécurité. On peut dire qu'il y a un manque de sécurité chez nous, mais aller dans ces pays-là, je peux vous dire que le manque de sécurité physique et matérielle, c'est autre chose que le manque de sécurité même dans nos banlieues. Enfin, je veux dire, moi, j'y ai quand même vécu 15 ans. Il y a une parole d'espérance et il y a une dynamisation des gens. Alors, évidemment, il y a une ambiguïté. Et alors, vous voyez, comment les églises traditionnelles se situent par rapport à ça? Ben, elles se situent avec une double réticence, d'une part parce que ces églises leur font concurrence, et d'autre part parce qu'évidemment, ces églises manifestent une certaine ambivalence, ambiguïté de leur type d'enseignement. Mais le grand défi aujourd'hui pour les églises, c'est effectivement d'arriver à entrer en dialogue avec ces églises, parce que je pense que si nous dialoguons avec ces églises, nous pouvons, en dialoguant, interpeller ces églises sur les ambiguïtés de leur discours. Si nous les méprisons et que nous laissons à côté, nous les laissons se développer et prospérer. Alors, il y a une question qui a été posée sur la Chine. Quand on parle des églises en Chine, souvent, en général, en milieu catholique, c'est toujours le débat entre l'église patriotique reconnue par le gouvernement et puis l'église dite souterraine, qui est plus ou moins quand même connue et plus ou moins tolérée, etc. Il est un fait que la Chine est un pays aujourd'hui où le protestantisme évangélique de type évangélique ou évangélique pentecôtisant se développe beaucoup. C'est-à-dire que il y a sans doute une centaine de millions de chrétiens qui sont pour la plupart membres d'églises de maison, de réseaux, et qui ne veulent pas se dire pentecôtistes, mais qui dans leur théologie ont des liens avec les églises, enfin ressemblent d'une certaine façon à des églises de type un peu néo-charismatique. Dans le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens a engagé un dialogue avec les églises néo-charismatiques et a publié un document qui s'appelle « Les églises néo-charismatiques », qui est donc une description de ces nouveaux courants dont je parlais tout à l'heure. En appendice de ce document, vous avez quelques pages qui décrivent les caractéristiques des églises de maison en Chine, et qui donc donnent assez facilement un certain aperçu d'une réalité dont on parle peu, ou en tout cas dont on parle peu dans des publications en langue française, parce que j'ai recensé pour Ustina, donc la revue, un ouvrage qui a été fait sur les églises chinoises de type pentecôtisant, disons, il y a 3-4 ans. Alors évidemment, il y a la réalité de la Chine, mais il y a d'autres réalités. La Corée, par exemple, est un pays où vous avez à la fois des églises presbytériennes très calvinistes qui sont, je dirais, un peu sur un modèle d'église européenne, et puis vous avez aussi des méga-églises, la plus célèbre étant celle d'un certain Yonggi Cho, qui est un pasteur qui a créé l'église Yoido Full Gospel, qui a été au point de départ rattachée aux Assemblées de Dieu, et qui ont une énorme église remarquablement organisée. Quand je suis allé à Busan en Corée, j'ai assisté à un culte dominical là-dedans. Il y avait 11, On était pris en charge comme visiteurs, il y avait 11 postes de traduction simultanée en différentes langues possibles, et vous aviez un culte qui était impeccablement organisé, avec une prédication qui n'était pas trop théologie de la prospérité. Mais là, on est devant une méga-église qui a à la fois un lieu central et qui a des antennes d'églises de maison et qui, en plus, se sont développées en dehors de la Corée. Donc, tout ça pour dire que la Chine, évidemment, toute la question est son ouverture politique qui, pour le moment, reste extrêmement limitée. Mais il y a un certain nombre de pays où le christianisme connaît un essor qui est comparable à celui de l'Afrique, avec évidemment un impact démographique fort.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Jules.
Je ne sais pas, c'est une idée qui me vient d'après votre exposé et surtout par la fin, où je me dis qu'effectivement, peut-être que l'unité, de toute façon, l'unité telle qu'on la voyait après le Concile, bon, c'est plus du tout pareil, mais est-ce qu'on pourrait presque arriver à dire, peut-être, quand on voit la déchristianisation en Europe, que peut-être même, malheureusement, peut-être que l'écuménisme n'est plus tout à fait la priorité, et que le 21e siècle serait plus celui de l'interreligieux, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où est la frontière là-dedans. Oui, ça me paraît un peu compliqué, mais je me pose un peu cette question. J'ai comme l'impression que l'unité, on en parlerait, alors peut-être l'unité, c'est la perspective eschatologique. D'une certaine façon, on est déjà unis de par notre foi au Christ, mais en même temps, on a des pratiques séparées. À partir du moment où on reconnaît les différences et la diversité des églises, ça veut dire quelle forme d'unité. Voilà, je sais pas. Je suis un petit peu...
On va prendre une question, ça. Mmh. Oui, Christophe.
Oui, ça, un peu dans le même sens, même questionnement, mais vous avez parlé de la difficulté aujourd'hui de travailler à l'unité visible de nos églises. Mais est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, avec une tendance à rejeter tout ce qui est institution, est-ce que l'unité ne va pas se vivre avec des murs moins hermétiques qu'autrefois, et qu'on pourra arriver à une unité de nos églises, sans que ce soit une unité d'une église, si vous voulez. Donc c'est ce que nous vivons dans l'œcuménisme, c'est comme Brutin dit aussi, c'est le constat de... et le respect de nos différences, mais au-delà de ces différences, de vivre une vraie unité de foi.
Oui, au début de la conférence, tu as montré que l'écuménisme est né dans un contexte missionnaire. Et je me pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que l'écuménisme se vit-il toujours dans un contexte missionnaire, ou bien, si il y a une dynamique missionnaire qui est beaucoup plus forte, est-ce que l'œcuménisme est beaucoup plus fort ou pas ?
C'est une belle question du président du DFAP, dans le département missionnaire de la Fédération protestante de France, pour dire les choses... qui évidemment s'adresse à l'ancien président de l'Association francophone de missiologie, c'est ça. Il me semble qu'il y a une prise de conscience, du fait de la sécularisation aujourd'hui, il y a une prise de conscience renouvelée des églises un peu traditionnelles, en tout cas en Europe, de la nécessité d'annoncer l'évangile et de la mission. Ce qui est... Et il est significatif, par exemple, que le groupe de conversation entre catholiques et évangéliques se soit posé la question « Peut-on évangéliser ensemble ?» C'est parce que ce souci de la mission a toujours été très important dans la sensibilité protestante évangélique, notamment baptiste, et parce qu'il y a une... Après avoir... j'allais dire relativiser un peu une priorité sur salut des âmes et assister sur l'engagement dans les réalités sociales, on se dit, mais si on n'annonce pas explicitement Jésus-Christ, les églises, le message évangélique ne s'entendra plus, y compris celui qui veut défendre plus de justice et plus de paix. Donc il faut aussi annoncer l'évangile. Moi, je pense que par rapport à la manière dont j'entends ta question... je dirais qu'il y a une certaine convergence, voire émulation, sur la nécessité de revenir à un certain souci missionnaire, même si on n'en pourra pas le mot ou si on s'en méfiera. Ce qui est compliqué, c'est que dans le monde d'aujourd'hui qui change, beaucoup de jeunes sont mobilisés sur cet objectif-là, mais beaucoup de jeunes, je vois en tout cas chez des catholiques, par exemple, où il y a un congrès mission, etc., sont quand même des hommes et des femmes qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont fait une expérience de converti. C'est-à-dire n'ont pas bénéficié toujours d'une transmission, et on fait une expérience forte. Et de ce fait, je dirais, on peut avoir un positionnement assez identitaire. Et moi, je vois, par exemple, un de mes confrères, qui est venu un jour me voir et me dire « Bon, moi, je continue ma formation. » Il était déjà jeune prêtre. « Et j'aimerais travailler sur les églises évangéliques parce que ces églises, elles se développent beaucoup. Elles ont des méthodes missionnaires qui m'intéressent et je voudrais finalement mieux connaître ces méthodes pour voir comment les appliquer. » C'est-à-dire que je lui ai répondu, je lui ai dit, si tu veux rencontrer des évangéliques pour t'inspirer de leurs pratiques et je dirais face à la concurrence qu'ils peuvent nous faire sur le terrain ou éventuellement en nous prenant des fidèles pour contrecarrer ça, c'est pas vraiment ma sensibilité. Moi, ma sensibilité œcuménique, c'est de découvrir l'autre pour l'expérience qu'il a, lui, et m'enrichir de ce qu'il est, pas forcément pour instrumentaliser ses réussites à mon profit contre lui. Je sais pas si je suis à peu près clair. Mais vous voyez, l'ambiguïté, c'est-à-dire que je pense que l'essor évangélique, mettant fortement l'accent sur la mission, a contribué à redonner de l'élan, notamment dans l'Église catholique, mais l'écuménisme vécu est limité dans la mesure où on se sent on a le même objectif, on peut avoir une même sensibilité, mais malgré tout, on est chacun chez soi et on est d'abord préoccupé par l'annonce de l'Évangile plutôt que par le fait de se rapprocher. Et là où l'annonce de l'Évangile peut être, comme j'allais dire, la pratique ou la plus de justice, etc., peut être une occasion de mieux se connaître pour que cela contribue à la recherche de l'unité, c'est plus peut-être de l'émulation que de l'écuménisme, pour résumer. Voilà, je réfléchis un peu à haute voix. Alors, je dirais, j'ai en partie un peu répondu ou dit ce que j'aurais eu envie de dire. Quand vous dites, c'est tout à fait, ça me semble juste, on est dans un monde qui a tendance à rejeter les institutions, à s'en méfier, que ce soit les partis politiques, les administrations et tout. Donc les églises, elles en sont victimes aussi de ce fait. Et cela, évidemment, à travers votre question, vous ressoulevez une question que j'ai évoquée trop rapidement dans mon propos sur les difficultés de l'écuménisme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de ce livre de Madame Danielle Hervieux-Léger qui s'appelle « Le pèlerin et le converti ». Donc c'est une sociologue qui a expliqué que un certain retour du religieux qu'on observe aujourd'hui, il prend deux figures qui sont évidemment des types qui ne sont jamais tout à fait purs. Il y a la figure du converti qui a fait une expérience forte et qui a une espèce d'intransigeance, qui a trouvé un sens à sa vie et qui va le vivre dans un groupe qui a tendance à un certain repli sur soi. Alors on observe ça chez un certain nombre de catholiques en particulier, mais évidemment c'est une certaine caractéristique quand même aussi de protestants évangéliques, où on pourrait le retrouver aussi dans la théologie des profils, dans un certain milieu luthéro-réformé européen, hein, où on dira, bon, finalement, Dieu a permis que les chrétiens développent des formes différentes qui ont un aspect complémentaire et l'unité des chrétiens est-elle absolument nécessaire ? Est-ce qu'une coexistence pacifique n'est déjà pas beaucoup ? Je réponds en même temps, je dirais, à votre question. Mais c'est pas comme ça que ça a été perçu au point de départ, et ça n'est pas comme ça que certaines églises continuent d'interpréter la prière de Jésus que j'ai dit tout à l'heure.
Et je pense que beaucoup dans l'œcuménisme aujourd'hui n'ont pas cette vision de l'unité institutionnelle non plus.
Ben, c'est-à-dire que dans le paysage religieux, vous avez, je dirais, des églises engagées dans l'écuménisme depuis longtemps qui dont les forces vives sont parfois assez identitaires. Et puis, vous avez un développement très fort des églises évangéliques pentecôtistes qui ont une ecclésiologie plutôt congrégationaliste. Alors, de ce fait, comment aller plus loin ? Mais je trouve que ça serait une espèce de, comment dirais-je, de résignation. Ce qui me fait peur, d'une certaine façon, dans la complexité du paysage religieux tel que nous le voyons aujourd'hui, c'est que l'on se résigne finalement à la division. Et que l'analyse du cardinal Koch de dire « on est d'accord pour l'unité, mais on n'est pas d'accord sur la forme », on se contente d'une unité, je dirais, à minima, parce que l'on aurait peur de perdre des acquis de nos propres traditions. Imaginons une seconde, hein, que l'on ait un développement d'églises évangéliques ou de type pentecôtisant avec des tas de réseaux. On va avoir des tas de gens qui vont être chrétiens, qui vont se voir, on aura des expériences éphémères, ici, là, des groupes qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Mais ça met en cause quand même fondamentalement l'Église. Est-ce que le Christ n'a pas voulu nous rassembler?
Mais pourquoi le considérer éphémère? Il y en a qui le sont.
Oui.
Mais il y a des évangéliques qui existent depuis quelques oui. siècles.
Mais bien entendu, il y a les Mennonites, les Baptistes, etc., sont les Baptistes depuis le XVIIe siècle, etc. Mais c'est pour ça que j'ajoute toujours évangélique pentecôtiste, c'est-à-dire que autant je pense que les grandes églises, les grandes traditions, disons, évangéliques, notamment Mennonite, Baptiste, et puis on pourra... de fait, existent depuis des siècles et ont une conception de l'Église qui est sans doute congrégationaliste, mais qui a quand même une certaine consistance, autant les groupes pentecôtisants au sens large... en tout cas ceux qui se développent le plus, les néo-charismatiques, sont plus tournés vers des expériences de groupes ecclésiaux émergents très divers et qui ont une volontairement une certaine souplesse à la limite en ne s'intéressant pas tellement à créer des églises. Et je pense que aujourd'hui, on parle beaucoup des évangéliques au sens large, mais à l'intérieur du monde évangélique, il y a un tiers qui sont des vrais évangéliques, je dirais, de tradition protestante, radicale, et puis vous avez les deux tiers qui sont pentecôtistes, avec une partie qui les traditions... ce qu'on appelle les pentecôtistes classiques du type Assemblée de Dieu, qui ont adopté une théologie protestante évangélique aux États-Unis ou en France, la réconciliation qui a permis la naissance du CNEF, mais les groupes ou les réseaux qui se développent le plus, c'est autre chose. Et on voit bien que ça rejoint d'une certaine manière certaines expériences des églises émergentes qui sont nées à l'intérieur de l'anglicanisme, mais qui ont un souci de faire connaître le Christ, mais qui ont un souci évangélisateur, qui ont peut-être moins un souci de structurer un peuple de croyants. Et ça, je crois que c'est quand même une évolution qui est assez considérable. Alors, évidemment, le sociologue pourra dire tout charisme finit par s'institutionnaliser et des choses, mais on voit quand même que là, il y a une volonté d'échapper d'une certaine façon à des formes institutionnelles dans certains de ces nouveaux groupes que l'on appellera évangéliques au sens très large, mais qui en fait sont plutôt de type néo-charismatique et qui, à mon avis, ont une théologie qui s'éloigne beaucoup de ses racines protestantes. Alors, votre question commençait aussi par le défi de l'interreligieux. On a pris effectivement conscience que les grandes religions du monde sont présentes et qu'elles participent de ce décloisonnement confessionnel dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles sont présentes chez nous, et comment y faire face, la différence quand même fondamentale qu'il y aura, c'est que souvent le dialogue interreligieux, il est lié à une certaine peur que l'on veut surmonter, alors que le dialogue écuménique, il était quand même lié à la prise de conscience d'une incohérence d'une pratique chrétienne avec un discours qui se veut rassembleur. Même si ceux qui défendent le dialogue interreligieux diront que ce dialogue interreligieux, il est une occasion, on voit avec le pape François par exemple, de fonder une fraternité sur un certain nombre de convictions, d'une transcendance, disons. Mais c'est effectivement quand même pas du même ordre. En tout cas, pour l'Église catholique, le fait d'être baptisé ensemble fait qu'il y a là une fraternité, on pourrait dire ontologique. Nous sommes unis personnellement au Christ, et si je suis uni au Christ, et si vous êtes unis au Christ, je suis uni avec vous. Et il faut que nous arrivions à manifester cette union spirituelle dont nous n'avons peut-être pas suffisamment conscience, mais qui est une réalité.